Et de mon côté, ben, je suis joint en studio par Monsieur Jean-François Desbiens. Vous êtes professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke à la Faculté des sciences et de l'éducation physique. Et aujourd'hui, on voulait parler de votre article dans Le Devoir, Le chaos dans les sports de combat, en fait, qui nous permet, en fait, on voulait, en fait, comprendre votre vision et en même temps, ben, vous, de votre côté, ben, ça vous permet de parler un peu également du décès, en fait, de cette boxeuse, Jeannette Zacharias-Zapata. Qui s'est passé il y a quelques semaines, en fait. Elle est venue au Québec faire un combat contre une boxeuse québécoise et elle est décédée à l'hôpital suite à un chaos. Alors, tout d'abord, bon matin, M. Desbiens.
Oui, bon matin, Eric.
Vous mentionnez dans votre article que la compétition avec chaos doit être réservée à des catégories d'âge adulte et d'expérience qui correspond à l'élite du sport. Malgré la réduction du risque, cette approche ne fait-elle pas que repousser le problème, en fait?
Oui, dans une certaine mesure, mais il faut garder en tête que la boxe est une pratique qui est culturellement ancrée, qui a ouais. des usages, et le changement est quelque chose d'extrêmement long à introduire, que ce soit dans les pratiques ou dans les manières de le réfléchir. Donc, pour l'instant, je pense qu'une façon graduelle d'y aller, c'est de s'assurer que un type de pratique comme la boxe, qui a de nombreux intérêts sur le plan éducatif,
ben oui,
quoi
ben
qu'on
oui.
puisse en penser. Je pense qu'il faut seulement voir le chaos comme étant quelque chose qui doit être restreint à une certaine élite. Je ne suis pas certain que l'élite était au rendez-vous dans ce combat-là.
De votre côté, en fait, ce serait quoi pour vous la catégorie de personnes parfaites pour y aller avec un sport qui pourrait se terminer par le... Ben pas une catégorie de sport, mais la catégorie qu'on pourrait permettre le chaos. Est-ce que ce serait comme des hommes et des femmes qui ont combattu X combats puis qui ont telle expérience? Est-ce que c'est ce qu'on ferait? Est-ce que ce serait une catégorie seulement de les gens qui seraient dans des championnats du monde, par exemple, qui pourraient y aller avec du chaos? Quelle est votre idée, en fait?
C'est une question qui n'est pas facile
de
traiter.
Pas d'inquiétude non plus si vous n'avez pas les réponses.
Moi, j'ai pas la prétention d'avoir la réponse définitive à une question comme celle-là. Moi, je veux juste m'assurer que des accidents comme ceux-là ne se reproduisent pas ou se reproduisent le moins souvent possible. Parce qu'un accident... la boxe, c'est un sport dans lequel il y a un risque inhérent à l'activité. Il y a moyen de réduire pas mal ce risque-là, mais le risque zéro n'existe pas. À partir de là, est-ce qu'on peut se donner des conditions qui auraient pour effet de réduire le risque autant que faire se peut, puis de préserver l'intégrité des pratiquants le plus longtemps possible? Moi, je pense que c'est possible d'améliorer ça. Tu sais, un problème de la boxe, c'est souvent le matchmaking. C'est un peu ce qu'on disait dans l'article.
Ouais.
Lorsqu'on organise des combats où on a un combattant très très aguerri, très habile, très puissant, puis qu'on le met face à un combattant qui est en moins bonne condition physique, puis qui est pas en mesure d'assumer le combat, pour moi, déjà, on vient d'augmenter les risques pas mal au bénéfice d'un spectacle dont l'issue est presque dite d'avance, tu sais. Donc, pour moi, à partir de là, on commence à jouer avec la vie des gens. Je trouve ça un peu... je trouve ça malheureux. Puis je pense qu'il faut éviter ça.
Et croyez-vous, en fait, que le cas de Jeannette Zacharias-Zapata permet d'aborder les enjeux, les risques relatifs à des sports autres que les sports de combat, mais qui comprennent également des chocs physiques? On peut penser au football américain, où il y a des cas et des cas de commotion cérébrale, ou même au hockey sur glace, également, qu'il y a beaucoup de commotion cérébrale. Est-ce que vous pensez que ce type de cas-là nous permet de prendre en considération que le sport, ça peut être dangereux si c'est mal fait, si c'est mal appris aussi?
Oui. Je souhaiterais bien que cet incident malheureux soit une occasion d'élargir la discussion autour d'autres sports où il y a des risques. Mais en même temps, la boxe a sa personnalité propre, je dirais. C'est une des seules activités avec le MMA ici en Amérique du Nord où à travers une succession de voies de fait, hein?
Parce que c'est vrai que c'est bien tourné comme ça, mais oui, c'est effectivement ça.
Ça s'appelle comme ça. Hein?
Ouais.
À travers une succession de voies de fait consenties, une personne va en arriver à dominer une autre personne et à obtenir la victoire, soit parce qu'elle aura forcé l'abandon, soit parce qu'elle aura forcé l'arrêt du match parce qu'il y aura eu KO, ou soit parce que le pointage des arbitres permettra de départager l'un et l'autre. Si on est en football et en hockey, en principe, si on joue selon les règles, il ne s'agit pas de voie de fait. Oui, il y a de l'agressivité instrumentale, mais l'objectif, ce n'est pas de nuire à l'autre. Ce n'est pas de lui infliger des blessures.
Ce n'est pas de le rendre KO au final. C'est rare qu'un coach de football va dire « là, je veux que ce gars-là se parte en civière ». Ce n'est pas vrai.
Bon, on sait que c'est déjà arrivé, là, mais je dirais que de manière générale, sans noircir outrageusement la situation, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Là. Les gens ont une certaine éthique de travail. Exact. Et puis, l'objectif, c'est de bloquer l'adversaire pour ouvrir le passage à d'autres ou pour empêcher le passage du porteur du ballon. Bon. Donc, malgré ça, il peut y arriver des accidents au football parce que c'est un sport de contact, de la même façon qu'il peut arriver des accidents au hockey parce que là aussi, c'est un sport extrêmement rapide où il y a des contacts. Le problème survient quand, à mon avis, l'engagement d'un des athlètes est pas en lien avec les règlements, ne respecte pas les règlements et où il y a une faute qui est commise au sens du code civil, tu sais. Et là, là, on a une prise vers une responsabilité civile où la personne aurait commis un geste qui dépasse ce que l'adversaire aurait pu consentir dans les conditions normales. T'sais. Bon, donc, pour revenir au départ de ta question, est-ce que ce qui est arrivé à la boxeuse, qui est absolument malencontreux, est-ce que ça peut être une occasion d'élargir la discussion à d'autres sports de contact? Je le souhaiterais bien. Malheureusement, j'en doute un peu.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas un certain aveuglement des ligues sportives? À chaque événement, c'est pareil. On se rappelle, par exemple, pendant la Coupe Stanley dernièrement, je pense que c'est Jack Evans, là, je l'ai misé un peu avec mes joueurs de hockey, mais il s'est fait ramasser. Tout le monde était fâché par la suite. Tout le monde voulait qu'on aille moins de blessures dans le sport. Mais elle dirait que par la suite, une fois qu'il y a un événement malencontreux comme ça qui se passe, on en parle pendant une semaine ou deux, puis par la suite, on oublie tout ça. Parce qu'au final, il doit avoir... Ça doit attirer. C'est ça, malheureusement, mais c'est ça qui doit peut-être attirer les on se dit que c'est ça qui attire les gens.
Oui. Ben, ça attire certainement certaines catégories de personnes. Ouais. Comme on le disait dans l'article, la souffrance et le sang attirent.
Ben oui.
Attirent. Oui. Mais c'est pas toutes les catégories d'amateurs qui aiment voir quelqu'un subir une blessure comme celle-là et certains même déplorent ça très profondément, même s'ils adhèrent, même s'ils aiment profondément aussi l'activité ou le sport en question. Moi, je me dis que si on voulait vraiment engager une discussion qui dépasserait les cadres de la boxe, on commencerait par attaquer la question des bagarres au hockey, par exemple, puis on prendrait des mesures très, très fortes dans le but de les enrayer, de les empêcher, et on punirait les personnes fautives de ça, parce que c'est pas dans le règlement, dans les faits.
Non, c'est ça.
Donc
là, on parle de choses beaucoup, on parle de beaucoup de négativité et tout ça, mais j'imagine qu'il y a quand même des bienfaits, puis il y a quand même des choses positives à pratiquer un sport de combat, puis il faut pas les mettre toutes dans le même panier non plus, là.
Ben, même la boxe, ce n'est pas une activité qui est négative. C'est une activité qui a un fort potentiel éducatif. Et nous, ce qu'on essaie de faire le groupe là, de recherche avec lequel je travaille sur les activités de combat en contexte scolaire, ce qu'on essaie de faire, c'est de réfléchir l'activité de combat, quelle qu'elle soit, de manière à ce qu'elle demeure sécuritaire pour les jeunes et qu'elle soit utilisable à des fins éducatives en contexte scolaire. Et c'est possible de le faire dans la mesure où on réfléchit sur la logique interne de l'activité, dans la mesure où on paramètre l'activité de manière à ce qu'elle ne pose pas d'enjeux de sécurité importants pour les pratiquants, mais qu'ils en retirent des bénéfices, par exemple, sur la gestion de situations d'interaction qui impliquent l'invasion du territoire personnel. Parce que c'est ça que c'est.
Ben oui.
C'est ça que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on vit une situation comme celle-là? Comment est-ce qu'on peut s'en émanciper? Comment est-ce qu'on peut contre-attaquer? Comment est-ce qu'on peut, bon, est-ce qu'on peut utiliser les déplacements? Est-ce qu'on peut jouer avec le matériel? Est-ce qu'on peut jouer avec les règles? Tout ça. Donc, nous, ce qu'on essaie de développer, c'est des manières de planifier des activités qui présentent un faible degré de danger, mais qui permettent de mettre les jeunes dans des situations qui vont les amener à ouvrir leur champ perceptuel, ouvrir leur manière de lire les situations, d'élargir leur répertoire d'action en utilisant des principes reconnus et en bout de ligne, en développant une lecture différente de ce type de réalité-là. C'est ça qu'on essaie de faire, nous autres, à la Faculté des sciences et activités physiques, étant convaincus, par ailleurs, que les activités de combat sont à plusieurs égards des sources uniques d'éducation physique. Mmh.
Et en terminant, Monsieur Desbiens, s'il y a quelqu'un qui nous écoute par hasard et qui voudrait commencer un sport de combat, auriez-vous un conseil à donner à un jeune qui voudrait peut-être commencer à s'inscrire dans la ligue de boxe ici, là, ben pas dans les cours de boxe ici à l'université ou tout ça, là. C'est quoi le conseil que vous lui donneriez ce matin?
Ben, en fait, un seul conseil, je ne sais pas par lequel commencer, mais j'en donnerai quelques-uns quand même.
Ben, allez-y,
je suis moi-même un pratiquant puis un enseignant des arts martiaux, donc je connais quand même un peu ça.
Oui.
J'aurais le goût de dire ceci. Quand on fait le choix d'une activité, c'est parce qu'on en a une certaine image, une certaine représentation, et souvent, elle n'est pas tout à fait juste. Donc, moi, j'inviterais les parents puis les enfants, ou s'il s'agit d'un jeune adulte, je l'inviterais lui ou elle à aller voir un ou deux entraînements pour voir comment ça se déroule, qu'est-ce qui se fait, comment c'est géré cette situation-là. Puis ensuite, je m'informerais sur l'école. Est-ce que c'est une bonne école? Est-ce que le prof ou le maître qui est là est un bon prof ou un bon maître? Si elle a une bonne réputation, déjà, on commence bien. Et puis ensuite, donc, aller voir des entraînements. Puis, de prendre, avant de s'inscrire, peut-être prendre 2 à 3 séances d'essai pour le vivre dans son corps concrètement. Et là, la personne, le jeune ou le jeune adulte, va pouvoir voir si ce type d'engagement-là lui convient, s'il se sent respecté dans ses capacités d'entrer dans l'activité alors que c'est un novice. Et à partir de là, tu vois, je pense qu'on serait déjà dans un bon... Il y aurait déjà un bon point de départ pour s'engager dans une activité de combat, puis d'en apprendre quelque chose, puis que ça nous construise comme personne.
Exactement. Ne pas laisser ces événements-là tragiques venir ternir la réputation du sport, mais quand même penser à comment on peut faire ce sport sans nécessairement que le chaos soit l'objectif final à la fin.
Oui, ben si je peux me permettre là-dessus, ce qui est dommage, c'est que la représentation que monsieur, madame, tout le monde se font de la boxe, c'est une représentation qui est largement tributaire de la boxe professionnelle. Or, la boxe professionnelle, elle a sa logique propre et cette logique propre-là ne s'applique pas, à mon avis, à la boxe amateur ou à la boxe des degrés inférieurs. Et donc, si on se fait une représentation de la boxe basée sur la boxe professionnelle, malheureusement, il y a un gros biais qui est installé là-dedans, puis ça va nous empêcher de voir tout ce que la boxe peut nous donner. On va voir juste les traits qui en sont hypertrophiés, c'est-à-dire la violence, les KO, le sang, le glamour, tout ça. Alors que les vrais boxeurs, ils s'entraînent en silence dans les gyms, puis ils travaillent fort, puis ils font de leur mieux pour essayer de s'améliorer.
Exactement, un combat contre soi-même au lieu d'être contre un opposant.
C'est généralement comme ça qu'ils en parlent, effectivement.
Bon, alors, Jean-François Desbiens, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke à la Faculté des sciences d'activité physique, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Pour les gens qui sont intéressés, d'aller lire votre article avec le groupe, justement, Le chaos dans les sports du combat, publié dans Le Devoir. Merci encore pour votre temps.
Merci de l'invitation.
Et de l'autre côté, il est 8h30.